Allons à la plage, les radiations nous font bronzer et colorent tout en bleu. Le vent radioactif souffle dans nos cheveux, à la fin la mer est propre, plus de poissons dégoûtants, juste de l'eau fluorescente.
Vamos a la playa, la bomba estalló, valori nucleari, ci abbronzano di blu. Vamos a la playa.
Et oui, le fameux tube disco rigolo Vamos a la playa des Italiens Rigueira est une chanson sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Vassivière pour deux émissions spéciales d'une heure sur le nucléaire, une aujourd'hui et une deuxième demain à la même heure de 11h à midi. L'émission d'aujourd'hui a été enregistrée à Feltin, à l'espace Tibor du Chalard, le samedi 2 novembre. Se tenait là-bas une formation à l'utilisation des compteurs GGR, ces appareils qui permettent de connaître la radioactivité. Vous allez entendre d'abord Jean-Pierre Mine, de l'association creusoise Oui à l'avenir, puis Roland Desbordes, président de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui étaient tous les deux à Feltin. Jean-Pierre Mine, de Saint-Georges-Nigremont, nous parle du passé minier de la région Limousin. Il fait partie de ces militants qui luttent aujourd'hui dans les commissions préfectorales pour que Areva assume l'héritage des mines d'uranium qui ont été exploitées dans la région et que cette entreprise nettoie au maximum les sites qui dégagent encore par endroits de fortes doses de radioactivité et pour que la trace soit retrouvée des mal nommés stériles miniers utilisés un peu partout dans les bâtiments, les travaux publics, pour que la pollution des cours d'eau soit surveillée et traitée à la source. On écoute Jean-Pierre Mine.
C'est une lutte environnementale qui est menée en Creuse pour réaménager les mines d'uranium. C'est une lutte qui est modélisable. Ça veut dire qu'il y a 230 mines d'uranium en France, dans tout le massif arsénien. Il y en a dans les Vosges, il y en a dans l'Andre en Bretagne, il y en a dans le massif central, mais il y en a aussi sur Nice, hein, les gens ne le savent pas. Et donc ce réaménagement, il s'impose à tous, avec un interlocuteur qui a été imposé par le gouvernement qui est Areva. Donc on a un seul interlocuteur, c'est Areva. Une problématique, le réaménagement des mines. Les réponses, elles sont locales.
Ces réponses, elles ne sont pas suffisantes, en fait. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre des grillages, que l'eau en aval reste contaminée.
Ce réaménagement n'efface pas complètement le passé minier, parce qu'il y a des pollutions qui sont irréversibles, en particulier la pollution de l'eau. Parce que là, on n'empêche pas les sources de couler et les sources de lessiver les anciens sites miniers, en particulier les stériles, hein, c'est-à-dire les cailloux qui sont restés après l'exploitation. Alors, ces cailloux sont peu radioactifs, mais ils le sont quand même. Et c'est un peu comme l'histoire du café, hein, que je raconte toujours, c'est que quand vous versez de l'eau chaude, l'eau bouillante sur du café en grain, ben, il ne se passe rien. Par contre, si vous passez de l'eau chaude sur du café moulu, vous avez du café. Ben, pour l'uranium, et l'uranium est un minerai très soluble, l'uranium qui a été concassé, qui a servi à remplir des chemins qu'on trouve un peu partout, ces cailloux-là qui sont lessivés par la pluie, on le retrouve donc dans les sources, dans les rivières.
Il y a beaucoup de gens qui ont profité de l'activité minière, enfin qui ont travaillé ou qui en ont profité d'une façon ou d'une autre, et qui aujourd'hui se retrouvent avec des enjeux de pouvoir par rapport à Areva.
C'est quelque chose dont on parle peu, c'est que dans le Limousin, donc cette activité minière, elle a mobilisé des gens qui ont travaillé, hein, et fiers de leur travail et qui ont acquis des compétences techniques dans les mesures, la dosimétrie, etc. Et ces mêmes gens donc se trouvent donc aujourd'hui, après la fermeture des mines d'uranium, avec le souci de la gestion d'un patrimoine minier qui a pollué. Et c'est pas toujours facile à assumer quand on a été économiquement rémunéré en vivant de l'industrie minière, et puis après se trouver en situation de devoir, entre guillemets, aider à réparer.
Tu as des exemples ?
Ben oui, des exemples. On a des agriculteurs qui ont abandonné l'agriculture pour aller travailler sur les petites compagnies minières qu'il y avait. Hein. C'est pas arrivant, hein. C'est avant Kojima. Et puis qui après, maintenant, ont donné d'une façon ou autre, contribué à la remise en état des clôtures, etc. Quoi. Il y a quelque part une continuité à assurer qui n'est pas forcément facile. Hein.
Areva a fini par faire des survols en hélicoptère. Tu as parlé d'une opération publicitaire parce que c'est pas vraiment suffisant à ton avis. Pourquoi déjà ? Et puis sinon, l'information sur les sites où sont dispersés ces stériles, elle n'est pas encore vraiment publique. C'est plutôt les maires qui l'ont et qui veulent pas forcément la donner parce que ça pourrait faire de la pub négative à la commune.
Oui, alors la technique d'Areva pour ce réaménagement. La récupération des stériles, ça a été donc une opération d'hélicoptère de spectrographie embarquée, c'est-à-dire il y avait un appareil qui mesure la radioactivité au sol en volant à faible altitude pour établir des cartes. Et puis suite à ces cartes établies par hélicoptère, ces cartes ont été transcrites et ensuite il y a eu une vérification au sol par des gens avec des dosimètres, avec des compteurs GGR, pour aller voir l'importance et la cause de cette radioactivité. Le problème qu'on a, c'est que les cartes qui ont été établies à la fin de cette entreprise-là, on peut se les procurer, c'est un peu difficile, et en même temps, c'est pas sûr que tout le monde ait envie de diffuser des informations sur la radioactivité de secteur de sa commune, enfin c'est pas... Sur le plan touristique, c'est pas forcément la meilleure publicité.
Tu as parlé d'un mot de Joux qui s'appelle Hiverneres, où il y a des pierres qui dégagent une radioactivité très importante. C'est quoi les pires endroits de Creuse, les pires endroits du Limousin ?
Les pires endroits, c'est tout le Limousin dans son ensemble. C'est un massif granitique. Et il y a plein de minéraux et uranifères. Donc il y a des filons d'uranium. Alors les gens qui ont taillé la pierre dans les carrières, etc., pour construire leur maison, ils ne sont pas allés avec un compteur GGR, hein. Ils ont taillé, ils ont construit. Et c'est vrai qu'on a des maisons en Creuse, des vieilles maisons, qui sont radioactives. L'uranium, c'est le père d'une grande famille, il a des descendants, il a le radium, il a... Le dernier des descendants, c'est le plomb, qui n'est plus radioactif. Et ses descendants, donc le radium, il a lui-même un enfant qui s'appelle le radon. Et le radon est gazeux. Donc les gens qui ont des murs en granit uranifère... Ben, ils ont du radium, ils ont du radon dans leur maison. Et donc, il y a à prendre des précautions et à vérifier, quelquefois peut-être, l'état sanitaire de sa maison, au moins de l'aérer, puisque le radon, il a trois jours une demi-période de vie de trois jours et demi. Donc, si on aère régulièrement, c'est pas un problème essentiel. Mais il est vrai qu'il y a des maisons, quand on voit avec un compteur GGR, on le balade sur la façade, ça crache comme si on se baladait sur un filon, hein.
Il n'y a pas eu d'études sur les anciens mineurs. Pourtant, ils ont souvent eu des cancers du poumon quand même.
Oui, alors on peut parler quand même d'une surreprésentation des cancers du poumon chez les anciens mineurs, ça c'est sûr. Et puis d'autres maladies, radio-induites, le cancer des os, des leucémies. Bon, mais pour affirmer que la corrélation, c'est-à-dire c'est vraiment la conséquence, il aurait fallu faire une étude épidémiologique au départ, de voir un petit peu l'état des gens, le patrimoine génétique et compagnie. Là, on sait qu'effectivement, ils ont été exposés, sans compter qu'on n'avait pas peut-être les moyens de protection qu'on a aujourd'hui.
Vous êtes bien sur Radio Vassivière, émission spéciale aujourd'hui sur le nucléaire avec Jean-Pierre Mine de l'association Oui à l'avenir. Jean-Pierre Mine est de Saint-Georges-Nigremont en Creuse. Il nous parle de cette association Oui à l'avenir.
C'est une association au départ qui s'est créée pour lutter contre le projet d'enfouissement de déchets radioactifs sur le secteur de Crau-Fernouël. Il y avait 44 communes situées en Creuse et au bord du Puy-de-Dôme. C'était dans les années 2000, juste après c'était une circulaire ministérielle qui a créé une mission à travers la France qui cherchait des lieux pour enfouir des déchets hautement radioactifs à vie longue. Et il est resté du projet Bure et Bure seulement Bure. Mais les Creusois ont été concernés. Et donc cette militance, elle a créé des solidarités qui ont permis par la suite de regrouper les gens pour exiger le réaménagement des anciennes mines d'uranium du secteur. C'est les mêmes gens qui avaient développé des compétences entre guillemets anti-nucléaires.
Et aujourd'hui, vous les surveillez encore, donc ces réaménagements ?
Ah oui, oui, justement, on cherche d'ailleurs des marcheurs, parce qu'il faudrait refaire un petit tour là, la trentaine de sites qu'il y a, pour voir ce qui en résulte après tout ce qui a été fait, quoi. Pour les sites réaménagés, puis pour les sites qui ne sont pas encore réaménagés, parce qu'il y en a qu'une douzaine seulement qui ont été remis en état. Et les autres, il faut qu'on manifeste une véritable exigence de réaménagement, parce qu'en 2018, la compétence d'Areva disparaîtra. Et ce réaménagement, il reviendra aux collectivités territoriales, c'est-à-dire aux citoyens.
Tu peux redonner les chiffres, le nombre de mines qu'il y a eu en Creuse, combien de mines peut-être aussi dans les autres départements du Limousin ?
Dans le Limousin, il y en a une soixantaine. Hein. En Limousin, on a extrait 1400 tonnes d'uranium pur. C'est à peu près 870 000 tonnes de déchets radioactifs, de déchets stériles, hein, qui ont quand même été dispersés. Voilà. Alors les mines d'uranium en Creuse, au départ, en 2005-2007, il y avait 16 mines identifiées par l'Institut de radio de sûreté nucléaire, l'IRSN, qui était chargé du recensement, parce que un grand nombre de mines avaient été oubliées. Elles avaient disparu de la comptabilité des petites compagnies, etc., la COGEMA. Et donc ces mines, il y en avait plus d'une dizaine qui ont été définies comme mines orphelines, parce qu'elles appartiennent à personne. Et donc Areva a hérité, c'est peut-être pas le meilleur héritage qu'on peut faire, mais il a hérité donc la gestion de ces mines orphelines.
Et là, en 2013, il y en a une nouvelle à Évaux-les-Bains.
Très important. Alors il faut savoir que Areva existe toujours dans la gestion d'après-mine, mais il existe toujours également comme prospecteur minier, et pas seulement sur l'uranium. Et Areva, une filiale d'Areva, vient de déposer un projet de permis de recherche sur la région d'Évaux-les-Bains, de mines d'or, d'argent et d'autres matières connexes. Et là, nous, l'association Où est l'avenir, aimerait bien savoir quelles sont ces matières associées à l'or et à l'argent dont on envisagerait l'extraction. Areva ne fait pas que de l'uranium. C'est une compétence, la prospection et l'extraction. Or argent, on sait ce que c'est. Mais les matières diverses qui sont dans l'enquête d'utilité publique, on aimerait bien savoir, traduit en français creusois, ce que ça veut dire.
Est-ce que Areva se relance dans une stratégie de mine de chercher de l'uranium en France ?
Non, enfin honnêtement, d'abord il faut savoir que bon, il y a des coins en Creuse où on avait un pourcentage de 1,5 pour 1000 de teneur en uranium. 238, c'était pas suffisant. Par contre, en Creuse, on avait des endroits où ça allait jusqu'à 3 pour 1000. Là, ça devenait intéressant. Mais les filons n'étaient pas très, très épais. Et puis, au coût où on extrait dans des pays avec une grande industrialisation, on peut imaginer que c'est peut-être moins cher. Mais surtout, je pense que la résistance géologique, c'est un fait, mais il y a aussi la résistance citoyenne. C'est que c'est plus facile d'aller exploiter dans des régions où les sociétés sont plutôt organisées différemment. Je vois pas très bien aujourd'hui, pas seulement en Creuse, qu'on revienne faire les exploitations d'uranium. On voit ce qui se passe à propos de l'exploitation du gaz de schiste et de la fracturation hydraulique.
Et tu as dit tout à l'heure que vous étiez en lien avec des gens au Niger qui se heurtent à Areva aussi.
Oui, à l'avenir est adhérent donc au réseau sortir nucléaire, mais Oui, à l'avenir entretient des liens avec les Nigériens. Les Nigériens sont venus il n'y a pas longtemps en stage dans les bois noirs à côté de Thiers. Bah, des ouvriers, des syndicalistes là-bas d'Arlit. Des gens qui sont représentants là-bas, ils sont venus en stage, comme le stage qui a lieu ici aujourd'hui à Feltin, pour apprendre à servir d'un compteur GGR. Donc un stage qui a été organisé d'ailleurs également par la CRIRAD, pour des associations d'Auvergne et du Limousin, mais également d'ailleurs. Et donc les Nigériens avaient été invités, on leur a payé leur billet d'avion, pour qu'ils puissent, ils sont venus à Troyes, là, pendant plusieurs jours, faire des mesures sur les monts d'Auvergne.
Vous êtes bien sur Radio Vassivière pour la première de nos deux émissions spéciales sur le nucléaire. C'était Jean-Pierre Mine de l'association Oui à l'avenir en Creuse. Quelques précisions sur le projet de mine d'or près d'Évaux-les-Bains. Il s'agit, d'après le site du ministère du redressement productif, d'une demande pour une durée de 3 ans sur le site de Villerange, qui concerne les communes de Auges, Bort-Saint-Georges, Chambon-sur-Voueize, Lépau, Lussa, Sana et Tarde, juste à côté donc d'Évaux-les-Bains, dans le nord-est de la Creuse. Et la recherche porterait sur de l'or, du cuivre, de l'argent, du zinc, de l'antimoine, de l'étain, du tungstène et des substances connexes. L'enquête publique s'est déroulée en plein été, du 24 juillet au 4 septembre. L'entreprise qui demande le permis d'exploitation s'appelle Cominor, filiale du groupe La Mancha, et elle est dirigée par Dominique Delorme, un ancien cadre d'Areva. La mise en service de la mine est envisagée pour environ l'année 2020. Nous allons écouter à présent Roland Desbordes, qui était présent à Feltin aussi au début du mois, à l'espace Tibord du Chalard, pour une formation sur l'utilisation des compteurs GGR qui permettent de mesurer la radioactivité. Roland Desbordes est président de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui s'est rendue mondialement célèbre pour avoir mesuré la radioactivité après l'explosion de Tchernobyl en 86. Roland Desbordes nous parle des combats de la CRIRAD, aujourd'hui en France, de l'importance qu'il y a à mesurer la radioactivité de façon indépendante par rapport à l'entreprise Areva et à l'État, et il évoque ensuite la probabilité d'un accident nucléaire en France, avec notamment une future directive européenne qui devrait passer en 2014 et qui relèverait les seuils acceptables de radioactivité dans les aliments. Qu'est-ce qui se passerait en cas d'accident nucléaire en France ? Roland Desbordes a un peu réfléchi à la question. Que fait la CRIRAD aujourd'hui principalement et qu'est-ce que tu vois de ce qui s'est passé et continue à se passer avec Areva et les anciennes mines dans le Limousin ?
Oui, la CRIRAD elle s'est mobilisée sur les mines d'uranium, ça fait déjà bientôt 20 ans. Oui, ça fait une vingtaine d'années. Et c'est vrai que quand on est venu la première fois, c'était plutôt en Haute-Vienne, puis la Creuse, la Corrèze, ben, tout le secteur, la Vendée en sprit, et qu'on a découvert un peu comment était l'environnement autour des anciens sites. En même temps, il apparaît comme étant magnifique. La nature reprend ses droits, comme on dit. Mais en réalité, dès que vous allumez un compteur dans ces zones-là, vous apercevez que ce n'est pas la nature. Il y a eu des travaux, il y a eu des modifications profondes de l'environnement. Et quand vous faites des analyses au niveau du laboratoire de la CRIRAD, vous vous rendez compte que les sédiments des rivières, des étangs, des lacs ne sont pas banals, qu'il y a du radon à des niveaux, qu'on a réutilisé des matériaux qu'on avait extraits du sol pour faire n'importe quoi. Ça peut être une digue à Saint-Pierre-du-Cantal ou une maison même, pour construire des maisons. Donc il y a un passé qui est très très lourd dans ces régions et qu'on ne veut pas bien regarder en face. Je trouve que c'est dommage. Il faut que notre génération qui a fait ça, ben, il faut qu'elle balaye devant la porte pour qu'on laisse à nos enfants quelque chose que... Ben, on tourne la page, mais il faut tourner la page complètement. Il ne faut pas la tourner à moitié.
Et vous avez donné une estimation tout à l'heure intéressante du coût que ça représenterait pour Areva de traiter les déchets de l'amont, c'est-à-dire avant qu'ils soient utilisés dans une centrale nucléaire, en gros, au même prix que celui pour les déchets de l'aval. Et ça, en fait, on en est loin.
Mais l'amont du cycle nucléaire, c'est-à-dire Areva, qu'on trouve en amont de la centrale, où il y a EDF, on retrouve Areva dans l'aval du cycle, mais on est dans l'aval du cycle, on n'est plus dans la radioactivité naturelle. Là. Donc là, le statut déchet radioactif est assez clair. Tout ce qui contient une certaine radioactivité en becquerel par kilo, on dit c'est du moyenne activité, faible activité, haute activité. Quand on est dans l'amont du cycle, c'est-à-dire avant la centrale, et ça commence entre la mine d'uranium et la centrale, Areva a obtenu du législateur une réglementation très particulière, une exception juridique qui fait qu'il n'y a pas de déchets radioactifs à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une radioactivité d'origine naturelle. Mais quand on regarde ces déchets-là, qui sont par exemple les résidus miniers, eh bien ces déchets-là, si on regarde leur contenu en radioactivité, leur durée de vie, on est sur ce qu'on appelle des moyennes activités vie longue. Or, ces déchets-là, s'ils étaient en aval du cycle, ils devraient être traités par Areva et ça leur coûterait plusieurs milliers d'euros la tonne pour les traiter. Et d'ailleurs, on ne sait pas très bien les traiter aujourd'hui, il faut reconnaître. Mais si on devait les traiter, eh bien, ça estimerait entre 1 000 et 5 000, peut-être 10 000 euros la tonne. Or, il y en a officiellement de ces résidus miniers, et pas seulement dans la région, si on prend l'ensemble du territoire français, 52 millions de tonnes. Si on fait le produit simple, 52 millions de tonnes, donc par le prix que pourrait représenter ce traitement, eh bien, on plombe complètement les comptes d'Areva du jour au lendemain. Or, aujourd'hui, ces déchets, nous, si on était, je dirais, loyalistes, on dirait, il y a une règle pour tous les déchets qui ont la même caractéristique. Il n'y a pas de raison de faire deux catégories alors qu'ils ont les mêmes caractéristiques, ces déchets. Eh bien, si on appliquait la même règle, on plombe les comptes d'Areva. Or, aujourd'hui, ce n'est même pas ce qu'on demande, nous, les associations. On dit au moins, Areva, il faut que ces déchets ils soient pas en pleine nature, au fond d'un étang, au fond d'un lac comme à Saint-Pardoux, ou dans une rivière, ou dans un champ. Non, ça, ce n'est pas normal. Il faut nettoyer, entre guillemets, ça veut dire décontaminer tous ces sites, rassembler cette radioactivité et protéger l'environnement de cette activité-là. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas la Lune. Sauf que rien que ça, ça coûte des millions d'euros. Évidemment, c'est beaucoup moins cher pour Areva. Areva pourrait accepter. Sauf qu'Areva joue la montre. Parce qu'ils savent très bien, Areva, que dans, en gros, 5 ans, ils n'auront plus de responsabilité là-dedans. Puisque en 2018, officiellement, Areva n'aura plus de responsabilité dans le passé minier. Donc, ils jouent la montre pour qu'en 2018, ben, ils n'aient pas trop à revenir dans le coin. Et ce sera après sur fonds publics que ça va se faire. Donc, c'est un cadeau empoisonné qu'on laisse, pas aux générations futures, mais à nos enfants, ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les générations futures, hein.
Et donc, il y a un enjeu à retrouver, à faire le maximum de choses d'ici 2018, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure.
Ah oui, il faut faire bouger les choses avant 2018. Et malheureusement, je dirais, comme c'est des zones très rurales, ces anciennes mines d'uranium, comme ici dans la région, zones très rurales, c'est pas facile de bouger les populations. Il y a un passé où les gens ont été associés, je dirais, à cette activité minière. Et il est donc pas facile de faire bouger les populations. Or, on a aujourd'hui la protection de l'environnement et donc de la santé publique que l'on mérite. Si on ne bouge pas, il ne se passe rien. Et il ne se passera rien. Si on bouge, on peut obtenir des miettes. Donc il faut bouger très fort si on veut arriver à faire bouger les choses. Ça, c'est vraiment un message très très fort. Et je trouve que c'est profondément injuste, quelque part. C'est que si des citoyens... La loi ne nous protège pas. Donc si les citoyens ne bougent pas, ben, il ne se passe rien. Areva n'a aucun intérêt à investir, parce que ce n'est pas un investissement, là. C'est traiter une histoire du passé. Les actionnaires d'Areva, qui se trouvent être l'État, à 90% actionnaires d'Areva. Or, c'est l'État qui fixe les règles de la décontamination de ces sites, du réaménagement de ces sites. Donc, l'État ne va pas se tirer une balle dans le pied en étant actionnaire à 90% d'Areva pour mettre en place des règles strictes pour réhabiliter ces sites qui coûteraient beaucoup d'argent. Donc, si on ne se bouge pas localement, ben on n'a rien. Évidemment, ça c'est clair, c'est mathématique.
Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il faudrait, je ne sais plus quels étaient vos mots, mais dans tous les sites miniers, reprendre ces stériles et en faire quoi finalement? En fait, j'ai l'impression qu'on n'a même pas de réponse non plus, non, si on est opposant, disons. Il faudrait quoi? Les concentrer, les mettre tous au même endroit et faire un grand lieu de stockage comme celui de Bure. Enfin, je ne sais pas si c'est la comparaison est bonne, mais qu'est-ce que vous prenez?
Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple de répondre parce que si on était extrémiste. Non, je dirais simplement des citoyens responsables. On dirait ce sont des déchets moyenne activité bilongue. Vous vous débrouillez pour les traiter comme des déchets moyenne activité bilongue. Qu'ils soient de l'amont ou de l'aval du cycle, on n'en a rien à faire. Ça, c'est 5 000 euros la tonne. Et ça veut dire trouver un site qui n'existe pas aujourd'hui et les conditionner dans des fûts, dans des bétons, sous de l'argile, etc., pour les protéger de l'environnement. Parce qu'il y a de la vie longue derrière. C'est-à-dire que c'est sur des milliers d'années qu'ils seront radioactifs, ces déchets-là. Donc ça, aujourd'hui, c'est, je dirais, ce qu'on devrait exiger. Mais qu'on ne pourra pas exiger parce que ce n'est pas réaliste, je dirais. Un, Areva n'acceptera jamais, parce que là, ça veut dire vous plombez Areva du jour au lendemain. Et deux, il n'y a pas d'endroit pour le faire, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la technique pour les conditionner, il n'y a pas la solution. Donc, à la limite, on ne demande pas ça. Et pourtant, c'est ça qu'on devrait exiger. Alors, sur quoi on se rabat, nous ? On se dit, puisque cette solution-là, on ne peut pas sérieusement l'envisager, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ces déchets-là, il faut les mettre à l'écart de l'environnement et les surveiller, contrôler, etc., avec un plan de surveillance de l'environnement qui soit parfait. Or, on est très très loin de ça, je veux dire, ça c'est le béaba, et ça on en est très très loin. Aujourd'hui, ces déchets, que ce soit les stériles, qu'on en a perdu la mémoire, ils sont très hétérogènes, il y en a qui sont tout à fait banals, il y en a d'autres pas du tout. Eux, on en a fait n'importe quoi, des chemins, des cours d'école, etc. On en a fait n'importe quoi, parce qu'on les a appelés les stériles. Évidemment, vous avez trompé tout le monde avec ça. Si on vous dit, vous avez besoin de remblayer une route, là, eh bien, on a justement des stériles d'uranium. Stériles d'uranium ? Il n'y a pas d'uranium ? Non, il n'y a pas d'uranium. Ah ben, vous les prenez, et vous en faites n'importe quoi. Bon, évidemment, c'était faux. Ils n'étaient pas stériles d'uranium. Donc, aujourd'hui, on est en train de retrouver la mémoire de ça. Ça, c'est déjà du boulot. Mais ça, c'est pour moi, ce n'est pas l'urgence. Il y a un boulot à faire de mémoire, oui, mais il va se faire dans le temps. Le temps qu'on la retrouve, la mémoire. Le temps qu'on retourne sur le terrain. Il ne faut pas trop attendre non plus, parce que les personnes qui ont vécu ça, eux vont mourir. Donc, il faut profiter qu'il y a encore un passé assez récent pour retrouver la mémoire des stériles. Les reprendre, ces stériles, et les remettre dans la mine, ça me paraîtrait la moins mauvaise solution. Bon. Par contre, les résidus d'extraction, les 52 millions de tonnes, eux, ça n'a plus rien à voir avec le minerai lui-même, le sol ordinaire. Ça, c'est du vrai déchet radioactif. Il est physiquement, chimiquement, radiologiquement différent de ce qu'il était au départ, dans la mine. Là, vous avez du vrai déchet radioactif qui, lui, a été...
C'est-à-dire, en quoi il est physiquement différent de ce qu'il était au départ dans la mine ?
Alors, dans la mine, quand vous avez le minerai d'uranium, les gens de la région savent, vous aviez soit des mines à ciel ouvert, soit des galeries. On était dans le filon d'uranium. Là, vous avez des activités qui sont l'ordre de quelques millions de becquerels par kilo. C'est pas mal, c'est de la moyenne activité et à vie très longue. Quand on a extrait cet uranium, Areva ou les compagnies qui ont fait ça à l'époque, elles ont d'abord broyé la roche. Ensuite, elles l'ont attaqué chimiquement pour extraire l'uranium. Et puis, elles ont tout laissé le reste, le résidu d'extraction. Ça s'appelle comme ça, hein, le résidu d'extraction. Areva est parti avec l'uranium et a laissé tout le reste. Or, ce que vous retrouvez là, c'est-à-dire tous les autres radioéléments qui étaient présents dans le minerai, il y en a une trentaine. En dehors de l'uranium, il y a une trentaine de radioéléments qui sont beaucoup plus toxiques que l'uranium lui-même, comme le polonium 210. Un microgramme de polonium vous tue quelqu'un. C'est quand même pas rien. Comme le radon, qui est un gaz qui va sortir, etc. Donc vous avez des éléments radioactifs très radiotoxiques, beaucoup plus que l'uranium, qu'on va laisser là, mais qui ont été broyés, donc la roche elle est plus compacte, le radon peut sortir, et qui ont été attaqués chimiquement, c'est-à-dire que ces éléments-là deviennent solubles, alors qu'ils étaient insolubles dans la roche. Donc entre le minerai dans la roche compact, sous forme d'oxyde insoluble, le radon ne peut pas sortir, l'eau ruisselle en surface, mais elle n'emmène rien, et le résidu qui reste là, où l'eau va ruisseler à travers, elle emmène tout. Et vous retrouvez ça à des dizaines de kilomètres de là, dans un lac, un étang, une rivière, etc. Dans un champ, vous retrouvez ça n'importe où dans l'environnement, c'est l'eau qui transporte ça. Donc, ces déchets-là, ils n'ont plus rien à voir, ce résidu, avec ce qui était dans la mine au départ. Et là, on ne peut pas considérer que c'est En gros, c'est ce qu'on avait avant. Non, on n'est pas du tout revenu à la case départ. Ça veut dire que là, on a un vrai déchet qui n'a plus rien de naturel. Et il faut éviter l'eau, que l'eau passe à travers pour emmener tout ça. Donc, il faut trouver des sites dans le coin. On va être obligé de les transporter à l'autre bout de la France pour les mettre où ? Mais au moins les gérer localement pour les protéger dans nos rivières de la région, nos champs, de ces impacts environnementaux, de ces résidus. Ça veut dire avoir des connaissances hydrologiques très poussées des sites sur lesquels c'est posé, savoir où part cette radioactivité, comment elle y arrive, comment protéger l'environnement de ça. Or ça, c'est pas fait, il y a tout un travail à faire de connaissance des lieux pour protéger l'environnement. Comment se fait-il qu'en Haute-Vienne, par exemple, la mine de Belzane, les résidus, qui est à ciel ouvert, un grand trou, l'eau ruisselle à l'intérieur, Areva ne sait pas où elle passe, mais vous la retrouvez à Saint-Pardoux, à 20-30 km de là, dans un lac de plaisance, où les gens se baignent. Là, à force de se bagarrer, là on se bagarre, on obtient des choses. Qu'est-ce qu'on a obtenu à Saint-Pardoux ? C'est que 39 000 tonnes de sédiments qui avaient été amenés de la mine jusqu'au lac de Saint-Pardoux, soit on a asséché le lac, on a récupéré 39 000 tonnes de ces, disons, sédiments du lac, qui étaient en fait des résidus venant de Belzane. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? On les a ramenés dans la fosse de Belzane. Alors vous allez dire, ben, où les mettre ailleurs ? Ben oui, mais sauf que dans 20 ans, vous allez les retrouver à Saint-Pardoux. Voilà où on en est. Alors, vous voyez, c'est un combat très long, très difficile. Les associations qui font ce combat avec les citoyens, parfois des élus qui nous aident, il faut arriver à faire bouger les lignes parce que demain, ce sera trop tard. On aura perdu la mémoire. Areva ne sera plus là pour faire le travail, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser aujourd'hui. Oui, moi je suis content de venir ici en Creuse pour apporter un outil, le compteur GGR, qui peut permettre à des simples citoyens de faire un vrai travail citoyen, de connaissance de leur environnement, pour aller repérer des zones, parce que c'est très vaste ces zones. Et nous, la CRAD, on a fait un tout petit peu du travail, pas tellement ici d'ailleurs, plutôt dans la Haute-Vienne, ou dans la Vendée, ou dans le côté des Bois Noirs, dans l'autre côté, dans l'Allier. Mais il y a un boulot énorme à faire. Et chaque citoyen peut être acteur là-dedans. C'est ça qui est extraordinaire. En même temps qu'il peut se passionner pour la radioactivité, comme on le fait avec le stage ici ce week-end.
Et chaque personne pourrait donc utiliser un compteur GGR et se faire des relevés, ça pourrait vous servir. Ça sert à la connaissance. Et c'est faisable par à peu près n'importe qui d'un petit peu formé à l'usage de ce compteur.
Alors, il y a énormément de travail qui a été fait sur les mines d'uranium par des simples citoyens. Jean-Pierre Mine est une de ces personnes, mais il y en a plein d'autres. Vu l'étendue des zones, c'est pas une association comme la CRAD qui peut faire. Nous, on a besoin de relais locaux. C'est pour ça qu'on a été à l'origine de la création d'un collectif mine d'uranium. Ce collectif mine d'uranium, c'est pour mettre en commun nos connaissances que nous avons du terrain, mettre en commun nos outils. Alors le compteur GGR, que celui qu'on a, en est un, mais on en a d'autres outils qui sont plus perfectionnés, plus rapides, et mettre en connaissance collectivité nos combats. Là où on a gagné à Guignon, là où on a gagné à Saint-Pierre-du-Cantal, là où on a gagné là, faire appliquer la règle ailleurs. Parce que Areva joue beaucoup la division. En gros, ils ne veulent pas accorder ici en disant « Non, non, mais si on fait ça chez vous, on sera obligé de faire ça chez les autres. » Oui, mais chez les autres, parfois, ils ont obtenu, ils ne veulent pas le dire. Parce qu'il ne doit pas y avoir de sous-zones, de sous-citoyens en France. La première fois qu'on a obtenu une sanction par rapport à une pollution environnementale, c'était en 2009. Et c'était à la suite des événements Socatri, Tricastin, où il y a eu 75 kilos d'uranium rejeté dans un ruisseau qui passe à côté du site nucléaire de Tricastin, donc dans la Drôme. Et 75 kilos d'uranium, dira, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, mais n'empêche que tout le monde disait, c'est pas bien. Mais c'est pas si grave que ça. Et nous, on a dit, si, c'est grave. Et là, on va aller jusqu'au bout. On va porter plainte. En première instance, on n'a pas gagné. Le procureur était nul, donc on n'a pas gagné. Mais on savait qu'on avait un dossier béton. On était là en appel, et en appel, on a gagné. Et là, pour la première fois, on a touché de l'argent, nous, les associations, et l'exploitant a eu une amende. Mais à côté de ça, combien de fois on a porté plainte et où ça aboutit à rien du tout? Et quand il s'agit d'impact sanitaire, alors là, c'est encore pire. Parce qu'on n'a pas les outils juridiques pour faire prouver, médicaux et juridiques, pour faire prouver qu'il y a un impact sanitaire à une pollution radioactive. Parce que la radioactivité ne signe pas ses morts.
Roland Desbordes, président de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité.
La CRIRA ne touche pas de subvention d'État, on n'en a jamais demandé par principe, parce qu'en France, on est dans une exception où l'État est en même temps l'actionnaire du nucléaire et en même temps celui qui fait les lois. Pour nous, il y a un conflit d'intérêts au plus haut niveau, et demander des subventions à l'État, pour nous, ce serait absolument anormal. Donc, pas de subvention d'État. Par contre, nous avons des appuis de collectivités locales, régions, départements, mairies, dans notre région, la région Rhône-Alpes, où nous avons des partenariats avec des collectivités locales. Ces partenariats, c'est des conventions, souvent sur plusieurs années, pour des travaux concernant la connaissance de l'environnement. Ça peut être donc pour connaître, par exemple, quelle est la radioactivité de l'eau de pluie qui tombe en Rhône-Alpes. Ben ça, il n'y a aucune donnée qui existe dans n'importe où. La région Rhône-Alpes dit, moi ça m'intéresse, je participe au financement, jamais à totalité. Au maximum 80%. Le département de l'Isère, c'était par rapport à des plantes aquatiques, etc. C'est pour une connaissance de l'environnement. Et là, elle participe, effectivement, et on est très content. Et ça représente en gros 20-25% du budget de rentrée d'argent de la CRIRAD. Il y a à peu près 30%, ce sont des clients, des vrais clients, c'est-à-dire un gestionnaire d'une décharge, un particulier qui veut faire analyser ses champignons, etc. Une association qui veut faire analyser les boues d'un lac, etc. Et puis, c'est nos adhérents qui représentent entre 40 et 50% de nos financements, de nos rentrées d'argent. Donc, on est auto-financé, je dirais à 95-97%. Il n'y a que quelques collectivités locales qui nous versent une subvention, vraie subvention, parce qu'on s'appelle la CRIRAD et pour nos beaux yeux. Mais ça ne représente qu'entre environ 3% de notre budget.
Et donc vous êtes à Valence dans la Drôme, dans Rhône-Alpes, et très connu notamment depuis Tchernobyl, peut-être même créé à ce moment-là, d'accord, pardon, depuis les années 80. Vous n'avez pas envie de grandir, qu'il y ait plus de CRIRAD un peu partout en France, ou plus de centres d'analyse, parce que j'ai l'impression que beaucoup de travaux repose sur les épaules d'une association.
Alors, effectivement, on croule sur les demandes. On ne peut pas satisfaire toutes les demandes que l'on a. Ça nous permet de choisir en même temps, c'est bien. Nous, on choisit ce qui nous paraît intéressant, pas pour l'argent, mais pour la connaissance. Faire des analyses, faire des rapports alimentaires, comme on dit, c'est-à-dire parce qu'un client, il va nous dire « moi, je dois faire une analyse là, donc je vous demande de la faire ». Je dis « oui, mais si pour nous, ça ne présente aucun intérêt, ça ne fait pas avancer la connaissance, ben on dit non ». On a la possibilité de dire non parce qu'on a plein d'autres clients qui attendent et qui nous veulent nous faire ça. Alors on pourrait dire « on pourrait grossir ». Augmenter le nombre de salariés. Il y a 14 personnes qui travaillent à la CRIRAD aujourd'hui. Moi, je suis le président, je ne veux pas qu'on devienne trop gros, ça me fait peur. Une structure, pour moi, il faut qu'elle soit petite. Small is beautiful, voilà. Par contre, on a créé des émules au Japon, à la suite de Fukushima. Les Japonais ont très vite compris, ils comprennent très vite les Japonais. Ils font des grosses conneries avant, mais ils comprennent très vite après. Et là, ils ont compris avec Fukushima l'intérêt de la CRIRAD. Et ils ont créé une CRIRAD là-bas, tout de suite après Fukushima, qui fonctionne très bien, qui s'appelle CRMS, et qui a créé tout de suite plusieurs labos. Il y avait une grosse demande, comme nous, après Tchernobyl, quand on s'est créé, on croulait sous les demandes d'analyse des particuliers. Ben, eux, c'était pareil. Donc, ils ont tout de suite pu rentabiliser leur équipement, très rapidement, du jour au lendemain. Voilà, la demande, elle était là. Hein. Alors, évidemment, avec le temps, la demande du particulier, elle diminue. Par contre, la demande générale, elle est toujours là, la demande générale. Parce qu'il se passe toujours des choses dans le nucléaire. Nous, on travaille... Le labo, si vous voulez, c'est ce dont on parle le plus souvent. Mais le gros du travail de la CERN, ce n'est pas tellement le laboratoire. C'est toute la formation qu'on fait pour les particuliers, comme on fait ici dans le week-end. C'est l'analyse juridique des textes qui sont en préparation, qui sont dans les tuyaux, qui vont nous tomber sur la figure demain et qui sont très mauvaises pour notre santé demain. Ceux-là, ces textes-là, il faut les anticiper pour savoir et intervenir avant qu'ils sortent.
C'est quoi ces textes ?
Pardon ?
Exemple de ces textes ?
Au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, la France, c'est la France, mais beaucoup de choses sont décidées au niveau européen. Et au niveau européen, il y a un traité qui s'appelle Euratom. Euratom, c'est un traité européen qui lie tous les pays de l'Europe pour tout ce que les problèmes de radioactivité. Ce traité Euratom, c'est le plus ancien traité d'européen, d'ailleurs, c'est assez amusant. Il a été créé au même moment que la communauté du charbon et de l'acier, c'est-à-dire avant de faire l'Europe. La première Europe qui a été créée, c'est l'Europe de l'énergie, du charbon et de l'acier, des matières premières, et c'est l'Europe du nucléaire. Après, on a fait l'Europe des pays, on fera peut-être un jour demain l'Europe des citoyens. Mais ça, c'était encore du boulot à faire. Or, ce traité Euratom, c'est un traité de développement de l'énergie nucléaire. À l'époque, on pensait que l'énergie nucléaire allait apporter le bien-être, la paix, la prospérité, la santé, etc. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que c'est pas au rendez-vous, hein, tout ça. Donc, Euratom définit des règles communes pour tout ce qui est la radioactivité. Eh bien, ces directives européennes, il y en a eu une en 96, et il y en a une qui va sortir en 2014. Celle qui va sortir en 2014, elle est en train d'être discutée au niveau de l'Europe. Or, dans cette directive de 2014, qui va s'appliquer à tout le monde, tout citoyen français ou belge ou machin, va être soumis à ces directives. Il y a dedans des choses intéressantes, nouvelles, qui vont plutôt dans le bon sens. Par contre, il y a des choses catastrophiques dedans. Pourquoi ? Parce que nous, notre lobby européen du nucléaire a bien compris les conséquences de Tchernobyl ou de Fukushima. C'est qu'en cas d'accident nucléaire, on ne pourra pas évacuer largement. Enfin, on ne décidera de ne pas évacuer largement. Il faudra que les gens consomment des produits contaminés. Eh bien, on est en train de mettre des normes sur les produits alimentaires qui sont très élevées, bien au-dessus de ce qu'on voit au Japon, pour ne pas avoir à évacuer les gens. C'est ça qu'on nous prépare. C'est ça l'accident de demain. Parce que l'accident de demain, c'est devenu une certitude aujourd'hui. Après Tchernobyl et Fukushima, c'est à l'Europe le tour. Ou soit on va vers l'arrêt du nucléaire rapide, et là on va éviter l'accident, avec des réacteurs qui sont de plus en plus vieux, soit on va vers l'accident inéluctable. C'est ça le choix. Et l'Europe, qui a misé sur le prolongement du nucléaire, alors, l'Europe nucléocrate. Hein,
qui en construit en Angleterre, décision de construire une centrale nucléaire en Angleterre, il y a une semaine ou deux, je crois.
Oui, alors ça, c'est une mauvaise annonce. Là. Il faut pas se fier à l'AFP. Hein. Là, c'est l'agence France-Presque. Hein. C'est pas l'agence France-Presse. Il faut pas se fier à l'AFP. L'AFP a raconté n'importe quoi sur cette histoire de cette centrale en Grande-Bretagne faite par EDF. C'est totalement faux. Ça fait 10 ans que EDF tracte avec les Anglais pour savoir s'ils vont acheter une centrale là-bas pour leur vendre un EPR. Puisqu'on n'arrive pas à vendre nos EPR aux étrangers, c'est plus facile d'acheter une centrale en Grande-Bretagne pour leur refiler un EPR derrière. C'est du marchandage, ça. Ben, vous savez que les EPR, on n'arrive pas à les vendre. Hein. Bon, ben, le meilleur moyen de vendre un EPR, c'est d'acheter là-bas une centrale, de la fermer et de mettre un EPR à la place. D'accord. C'est nous qui payons de toute façon, hein. C'est simple. C'est EDF qui paye, donc c'est nous. Donc, oui, mais on va vers un vieillissement du réacteur. Il n'y a pas de grand projet européen de développement du nucléaire. Par contre, on va vers un vieillissement, soit un arrêt comme en Allemagne, ou en Espagne, ou en Belgique, soit vers un vieillissement des installations nucléaires. Or, nous, l'Angleterre et nous, on a les installations les plus vieilles nucléaires. Et là, on va, plus on fait durer la vie de ces centrales, plus on augmente la probabilité d'un accident. Et quand vous augmentez la probabilité, à un moment donné, là, c'est l'accident certain. Eh bien, si vous faites vos petits calculs, parce que maintenant, avec Tchernobyl et Fukushima, on peut faire des calculs, on a un retour d'expérience, comme on dit. Hein. Eh bien, vous arrivez à l'accident certain. Et ce sera chez nous ou chez nos voisins, mais c'est pareil. Et donc, il faut se préparer à cette situation où on aura à gérer l'accident lui-même, mais ça, bon, c'est... mais surtout le post-accident, c'est-à-dire ce qui va s'écouler sur des années après. L'urgence, on sait que ce sera le bordel. Je suis désolé, mais ce sera le bordel. Tout le monde est d'accord. On n'est pas bon pour ça. On ne peut pas être prêt à gérer l'urgence. Par contre, ce qui va durer sur des années et qui va coûter très très cher, c'est le post-accidentel. Sur combien ? Sur 10 ans, 20 ans ? On est 27 ans après Tchernobyl. Et il y a toujours des gens qui vivent en zone contaminée, qui bouffent de la radioactivité tous les jours. C'est ça qu'on nous prépare. On nous prépare en prévoyant des textes qui vont encadrer légalement la contamination légale donc de notre alimentation en cas d'accident nucléaire.
C'est quoi ces taux alors ? Ces taux ou ces maximums ?
Eh bien, en gros, il y a deux catégories d'aliments. Il y a les aliments enfants-adultes et il y a différents types de radioéléments qu'on va retrouver dans l'environnement à coup sûr en cas d'accident nucléaire. Donc c'est les iodes à vie courte et c'est les césiums à vie longue. Eh bien, suivant les radioéléments, suivant la catégorie de produits, les produits laitiers, c'est plutôt pour les enfants, les produits adultes, ben, les autres produits, le brocoli, c'est plutôt adulte, etc. Enfin bon, et là, on fixe des limites qui ne sont pas du tout des limites protectrices. C'est des limites à plusieurs milliers, enfin, qui vont jusqu'à plusieurs milliers de becquerels par litre autorisés, par kilo. Si vous consommez ces produits-là, les normes sanitaires que l'on considère comme acceptables aujourd'hui, moi, elles ne sont pas acceptables pour moi, mais que les autorités considèrent comme acceptables, sont complètement explosées. Ce qu'on considère comme un risque normal en fonctionnement normal des installations nucléaires, en cas d'accident, il n'y a plus de limite pratiquement. On n'a plus de limite. On est sur des taux extrêmement élevés, avec donc des impacts sanitaires qui n'ont rien à voir avec les autres industries. Quand on fait des projections sur le chimique, on en parle beaucoup, le chimique c'est pas bien, c'est pas propre, etc. Mais dans le chimique, on imagine des accidents graves. Comme dans le nucléaire, c'est pareil. Ben, il y a eu AZF, il y a eu Seveso, il y a eu Bhopal, oui ça existe. Et quand vous examinez les risques que l'on considère comme acceptables dans le chimique et dans le nucléaire, alors là on n'est pas du tout dans la même cour. Hein. Dans le chimique, on est beaucoup, beaucoup plus strict pour fixer des limites en cas d'accident, etc., que dans le nucléaire. Alors qu'on nous fait croire que dans le nucléaire, on est très prudent. C'est totalement faux. Les limites qui sont fixées et que les citoyens devraient connaître, c'est là que nous, on travaille là-dessus, sur ces textes. Ça, c'est très complexe. Ça, c'est pas médiatique, ça. Parler de ces choses-là, c'est très compliqué. Si vous interpellez des journalistes pour parler de ces choses-là, ils vont dire... Non, vous me prenez la tête, ça c'est compliqué. Non,
mais on est sur Radio Vassivière, on est d'accord pour, pour parler des choses compliquées. Pour bien rappeler, il s'agit donc d'une directive en préparation, Euratom, non.
Qui va sortir en 2014.
Qui va ensuite devoir être appliquée par...
La dernière directive qui traitait ces sujets date de 1996. Elle était après Tchernobyl, donc elle tenait compte... je veux dire, de certaines choses de Tchernobyl, avec Fukushima, qui est quand même une situation encore plus grave que Tchernobyl, une directive européenne. On se devait de toiletter cette directive de 1996 et de l'améliorer. Alors, sur certains points, sur certains détails, oui, effectivement, on a tenu compte. Mais je dirais, sur la grande majorité, on est pire. On revient à une situation pire parce qu'on se rend compte par la force des choses que gérer une catastrophe nucléaire sur le long terme, c'est ingérable.
Alors la CRIRAD, vous êtes basé à Valence, le long de la vallée du Rhône, avec des centrales nucléaires un peu tous les 50 km là. C'est quoi votre secret? Vous avez des bunkers en dessous, vous avez des avions prêts à partir vers l'Afrique?
On n'a pas tout ça. On a des nouveaux locaux. Parce qu'on a dû déménager sur Valence, mais non, on n'a rien de tout ça. Nous, on fait des mesures dans l'environnement. Par contre, on gère un réseau avec des collectivités locales qui sont nos partenaires, avec qui on travaille très bien. Il y a des collectivités locales très intelligentes qui ont compris que si le nucléaire, c'est pas forcément leur tasse de thé, c'est pas un sujet non plus interdit. Ils ont le droit de s'en préoccuper. Et c'est ce qu'ils font effectivement en mettant en place avec nous un réseau d'alerte, parce qu'on est dans une région effectivement, un réseau d'alerte dans la vallée du Rhône, avec des balises qui sont dans les villes et pas autour des centrales, mais dans les villes de la vallée du Rhône, Avignon, Montélimar, Valence, Romans, jusqu'à Lyon, maintenant Grenoble. Eh bien là, vous avez au cœur des villes, vous avez des balises qui vous donnent l'état de la radioactivité dans l'air à chaque seconde. Et c'est nous qui gérons ça à partir d'une centrale qui est située à la CRIRAD. Donc nous, on connaît très bien la radioactivité dans l'air. Et au moindre petit truc, on peut donner l'alerte. Alors on donnera l'alerte évidemment aux collectivités locales, les maires, les conseils généraux, à nos adhérents, aux médias. Mais si on nous l'autorise à le faire, parce que s'il y a un vrai problème grave, je ne suis pas certain qu'on ait la liberté d'action dans ce cas-là. C'est l'ordre qui doit régner et pas les voix discordantes comme celle de la CRIRAD. Donc, en cas d'accident grave, je ne sais pas comment ça se passera. Nous, on sera prêts, mais est-ce qu'on pourra agir? On a vu passer, fin mars, début avril 2011, un petit nuage qui venait de Fukushima grâce à nos outils. Impossible de le voir avec un compteur GGR. Par contre, avec ces outils-là, oui, nous l'avons trouvé. On a mesuré des particules. On a identifié des particules qui venaient du Japon, qui ont fait 13 000, 15 000 kilomètres. Ça, c'est impressionnant quand même. Eh bien oui, on les a trouvés. Et on a pu informer les collectivités locales, dire oui, on a trouvé quelque chose, mais ce n'est pas grave. On est à des niveaux très très faibles, il n'y a pas de raison d'alerter, tout ça. Et j'étais très contente. Elles ont découvert que le réseau qu'elles financent, ben, il sert à quelque chose. Au moins à rassurer les gens quand c'est vrai qu'on peut les rassurer. Par contre, elle servira aussi à les alerter quand il faudra les alerter.
En théorie, en cas d'accident, on doit écouter France Inter, je crois, grandes ondes qui diffuseraient pour... Ou les France Bleu locales, ou les préfectures donneraient des ordres. Je sais qu'il y a eu à Golfech, il y a eu un exercice il n'y a pas très très longtemps d'alerte qui était visiblement très approximatif. Vous avez quelques infos sur ce qui est censé se passer dans les préfectures?
Alors, en cas d'alerte nucléaire, c'est-à-dire grave, rejet massif de radioactivité dans l'environnement, il y a ce qu'on appelle un plan particulier d'intervention qui est allumé, comme on dit, on allume des plans, et qui concerne la zone la plus proche de la centrale, entre 5 et 10 km. Au-delà, ce PPI, il n'est pas mis en œuvre. C'est dans cette zone-là qu'on va mettre en place le confinement des populations. Éventuellement, on va dire aux gens, prenez vos comprimés d'iode que vous devez avoir chez vous, parce que là, effectivement, ils en ont, normalement. Et d'écouter la radio locale, et c'est France Bleu en général qu'il faut écouter, oui. Donc avoir une radio qui fonctionne avec des piles ou une petite manivelle, une dynamo, je ne sais pas, voilà, pour que ça fonctionne, tout à fait. Et après, on verra. Ben, ça, c'est la phase d'urgence, ce qu'on appelle la mise à l'abri. C'est la première phase. Et je dirais, ça c'est bien, il faut le faire. Hein. Il faut que les gens, par contre, soient bien disciplinés. Après viendra la deuxième phase. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va... il faudra bien les évacuer, ces gens, si la situation est grave. Et là, ils vont sortir de chez eux, ils vont patauger dans la radioactivité, tout le monde va respirer, tout le monde, etc. Là, on est déjà moins fiers. Là.
«
C'était Roland Desbordes, président de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, basée dans la Drôme, mais qui était à Felletin au début du mois de novembre pour une formation à la mesure de la radioactivité. Cette émission spéciale sur le nucléaire se poursuit demain, avec une autre heure consacrée au nucléaire, avec Michèle Granier, militante de longue date sur la question en Creuse. Kraftwerk Radioactivity sur Radio Vassilia.
Radioactivity.